l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Présence.
Les oiseaux, les vagues, tout ce qu'il faut pour bien se sentir à l'écoute de Radio Présence en ce temps d'été où nous sommes, toute l'équipe et moi-même, très heureux de partager ce temps avec vous. C'est l'heure du Présence Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h avec dans quelques instants la mise à l'honneur d'une personne qui s'est exilée à Montbourguet, c'est dans le nord du département des Hautes-Pyrénées, et ce sera le sujet de la chronique verte de Benoît Guillard. Nous ferons connaissance de Marie Niambalamou. Le coup de cœur en librairie du frère Martin de l'abbaye de Tournaille, responsable de la bibliothèque de cette abbaye. Il nous présentera au micro de Anne-Rose Jankovic les chroniques de Bridgerton, un ouvrage de Julianne Quinn. Les informations, ce sera bien sûr aux alentours de 12h30. Et puis la chronique solidairement vôtre de Anne Deslois nous amènera à la découverte de Sabine Barbecombe, qui est responsable de la pastorale de la santé dans le diocèse de Tarbes et Lourdes. Et enfin, les écrivains dans les Pyrénées, cette chronique qui nous est présentée tous les vendredis par Catherine Albrecht, nous amènera à la découverte de Antonin Artaud, qui a arpenté nos belles Pyrénées. Voilà le programme de ce Présence Midi en ce vendredi 24 juillet. Nous le débutons, si vous le voulez bien, avec les titres des informations de ce jour.
Bonjour à tous. La Haute-Garonne est placée en vigilance rouge pour le risque de feux de forêt. Les autorités appellent à la plus grande prudence en raison des fortes chaleurs, de la sécheresse et du vent. Dans le Tarn-et-Garonne, le ministre de l'Éducation nationale a présenté à Montauban la future carte scolaire nouvelle génération destinée à mieux adapter les moyens aux besoins des territoires. En Ariège, la loi montagne continue de susciter des réserves. Élus et professionnels jugent le texte insuffisant pour répondre aux enjeux des territoires pyrénéens. Airbus qui poursuit ses essais. Un appareil a relié Toulouse à Melbourne en Australie lors d'un vol test de très longue distance avant sa livraison. Enfin, le festival Castel Artes débute aujourd'hui à Mirepoix en Ariège jusqu'au 31 juillet. Concerts, spectacles et danses animeront la cité médiévale. Voilà pour les titres.
Des titres qui seront développés dans un tout petit peu plus d'une demi-heure. En attendant, eh bien, c'est l'heure de la chronique verte de Benoît Guillard.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouverons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. J'ai fait le choix cette semaine d'aller dans le nord du département, d'aller sur la commune de Maubourguet. Et je suis parti à la rencontre d'une femme exceptionnelle qui a fait le choix il y a de nombreuses années, mais elle va nous le raconter, de venir vivre à Maubourguet et de ne pas oublier ses racines. Et on verra pourquoi. Et ce sujet m'a beaucoup interpellé parce que Maubourguet, on est dans le rural, et dans le rural, on a le souci, bien sûr, de ses voisins, mais on s'aperçoit aussi que devant une telle initiative, on a aussi le souci de frères et sœurs beaucoup plus lointains. Voilà. Donc je suis avec Marie Niambalamou. Bonjour Marie.
Bonjour, bonjour les chers auditeurs. Je m'appelle Marie Niambalamou. Je suis originaire de la Guinée, République. Je suis née donc là-bas et partie en 1958, l'année de l'indépendance, parce que mon père était militaire de carrière dans l'armée française. Et donc, on a dû partir, j'avais 5 ans.
Alors, Marie, justement, aujourd'hui, Marie, vous n'avez pas oublié vos racines. Hein, c'est surtout ça qui est important. Et donc, on va expliquer un petit peu à nos auditeurs, effectivement, depuis l'âge de 5 ans, comment vous avez gardé ce lien très fort avec votre pays et avec vos racines.
Oui, c'est grâce à mes parents, parce qu'à la maison, déjà, on parlait notre langue maternelle. Et puis, j'ai grandi. On est arrivé, quand on a quitté 58 en Guinée, on est arrivé en Côte d'Ivoire, où on a attendu, c'était sous le gouvernement du général de Gaulle. Donc, on a attendu un peu avant de venir en France en 1964. Donc, j'avais 11 ans. Arrivé ici, j'ai grandi, j'ai été à l'école, et puis après, bon, je me suis mariée, et puis mes parents, tous, ils sont là, ils vivent en France, mes enfants, mes frères, tous, on est nés en France. Et à la retraite de mon papa, il a voulu partir, donc rencontrer sa grande sœur qui était restée, parce qu'ils étaient séparés. Arrivé en Guinée, en Côte d'Ivoire, il est mort d'un arrêt cardiaque. Donc, il n'a pas pu aller donc au village. Et comme je suis l'aînée d'une famille, comme d'une famille nombreuse, j'ai dû y aller pour les funérailles. Voilà. Et ce que j'ai rencontré, non seulement le décès de papa, mais quand j'étais au village, la vie des enfants m'ont vraiment traumatisée. Et à mon retour, je ne pouvais pas vivre cela en moi parce que je crois en Dieu, j'ai la foi. Donc j'en ai parlé autour de moi parce que je n'allais pas bien du tout de voir des enfants qui mouraient de faim en 2001 encore. Et donc j'ai cherché, j'ai parlé à mes amis, ma famille. Et puis autour de moi, on a essayé de créer une association. Donc cette association s'appelle l'Oiseau Bleu de Zérékoré, car je suis natif de Zérékoré, la République de Guinée, mais en région forestière. Et puis, depuis la création de cette association en 2005, j'ai été soutenue par des adhérents, des amis qui ont intégré l'OCA, qui m'ont entourée pour des activités. Le but, c'est de venir à l'aide aux orphelins en milieu rural. C'est les agriculteurs, parce que souvent, les enfants, quand la femme accouche, la femme meurt le plus souvent. Et donc, le père, ne pouvant pas élever l'enfant seul, se remarie, bon, ça se passe mal. Et l'enfant est confié à la tante ou à la grand-mère. Donc, c'est tout un problème. Donc, beaucoup d'enfants ne survivent pas. S'il n'y a pas de lait, il n'y a pas de soins. Cette situation m'a traumatisée. Et donc, à la création de cette association, le projet, c'est de construire un centre d'accueil et d'hébergement pour ces orphelins, afin de les permettre d'aller à l'école, déjà d'exister par l'acte de naissance, parce que là-bas, tout est payant. Hein. Donc, après, les accueillir au centre, les soigner, et ceux qui sont un peu grands, les inscrire à l'école, et puis pour qu'ils puissent aller à l'école, les soigner aussi. Et puis les manger, les faire manger, les habiller. Pour que ces enfants, il faut quand même qu'ils aient leur dignité. Donc, c'est là-dedans que je rencontre, j'ai vraiment rencontré, je vivais, j'étais baptisée, mais j'ai vraiment rencontré le lien avec Jésus. Parce que on a démarré avec 150 euros. Donc, 150 euros pour un projet comme ça, mais moi, je ne voyais pas, hein, j'avais confiance et puis j'avançais. Et aujourd'hui, ce centre, on a pu acheter le terrain grâce aux dons, grâce à la générosité des gens. On a acheté le terrain de 2400 mètres carrés dans lequel on a pu clôturer, creuser un puits. Et on a construit le réfectoire. On a commencé par la construction du réfectoire et un logement pour le gardien, parce qu'il faut quelqu'un pour garder le site. Et là, bon, avec des partenaires, parce qu'on a fait des demandes de subventions, donc la mairie de Maubourguet nous soutient dans ce projet annuellement. Et il y a le conseil régional qui nous soutient dans le projet. Il nous avait octroyé en 2017 10 000 euros qui nous a permis de commencer à la construction du dortoir. Donc le dortoir va contenir, va loger 35 enfants. Donc on a pu faire la fondation, monter les murs, faire le toit. Et maintenant, on a fini de couvrir en 2019. Il y a eu le Covid. Le Covid nous a fait beaucoup de mal. Beaucoup. On n'a pas pu travailler du tout. Donc le Covid a duré, je crois, 2 ans ou 3 ans. Et cela nous a fait prendre 5 ans de retard parce que de suite après, on ne pouvait pas faire d'activité. Puisque notre force était dans les activités, faire des repas, des animations, et voilà. Donc on n'a pas pu, pendant 2 ans, on n'a pas pu faire quoi que ce soit. Et ça a repris l'année dernière un peu, avec le peu qu'on a gagné, j'ai pu y aller. Mais pour voir, parce que même nos contacts là-bas, tout le monde était inquiet, parce que nous ne nous voyons plus, on a un référent, tout le monde était heureux de nous voir. Et puis, de me voir, et puis, bon, ben, j'ai bien vu, bon, rien, le bâtiment n'a pas bougé, donc, mais on n'a pas pu continuer. Il nous manque le carrelage, la peinture, et dans cela, il faut aller dans les 7 000 à 8 000 euros qui nous manquent pour faire ce dortoir, pour finir ce dortoir.
Alors, justement, Marie, cette association, elle est ouverte à tous. Hein, l'objet principal, c'est de soutenir ces enfants dans votre pays, leur apporter un toit, leur apporter un lieu pour pouvoir grandir et pour pouvoir s'éduquer et gagner en dignité, inévitablement. Oui. Et donc, pour ça, il suffit d'adhérer à l'association. Donc, on va peut-être donner les références de l'association.
Oui, mais l'association L'Oiseau Bleu des Érécorées, est 607... Avenue de Tarbes à Maubourguet. Le numéro de téléphone, c'est le 06 77 14 83 37. Il vaut mieux m'appeler sur le portable. Sinon, je vous donne aussi le fixe, 05 62 96 47 68. Et l'adresse, le site, notre site mail, internet, www.guinée, en minuscule, sans accent, -du-6 enfance sans s.com. Et l'adresse mail, c'est mzereko@gmail.com. mzereko, mzereko@gmail.com.
Alors aujourd'hui, effectivement, vous avez pu réunir un certain nombre de bénévoles, de gens qui adhèrent au projet, qui vous accompagnent, qui construisent avec vous ces allers-retours et ces constructions sur ce centre d'accueil pour les enfants en Guinée forestière. Oui. Ce sont aussi des ruraux, pour la plupart, oui, qui vous accompagnent. Hein, donc oui, c'est aussi pour ça que je venais, parce que c'est intéressant de voir le rural, il n'a pas que le souci de son voisin, mais il a aussi le souci des gens qui sont beaucoup plus loin. Oui. Et puis vous êtes une rurale de la Guinée, oui, tout simplement. Oui. Oui. Donc je veux le souligner, cette rencontre a été aussi une belle rencontre, puisque je sais que vous êtes bien investi sur le territoire de Maubourguet.
Oui, Maubourguet, le canton de Maubourguet me reçoit, m'a bien reçu et a adopté vraiment l'association, parce que déjà la paroisse, les paroissiens soutiennent le projet. Et sont très forts déjà, et déjà par la mairie. Et toute personne est bienvenue. Bon, moi j'ai la foi, mais on a des musulmans, on a toutes sortes de personnes, des enfants, toutes sortes, sans distinction. Voilà, vous êtes les bienvenus. On a besoin des mains, on a besoin des dons. Quand on fait des activités, nous manquons de mains fortes. Parce que les personnes qui me soutiennent sont un peu âgées maintenant.
Alors là, vous êtes aussi, c'est la clameur de la terre et la clameur des pauvres. Et vous êtes témoin, justement, en Guinée. Oui. Vous êtes témoin de cette clameur de la terre et cette clameur des pauvres. Et donc, la difficulté que cette population vit encore aujourd'hui, oui, et qui peut aussi s'accélérer avec le dérèglement climatique. Hein. Oui. Et vous êtes aussi témoin de ça, je crois que c'est intéressant de le dire.
Ah oui, je suis témoin de ça parce que j'ai été là dernièrement au mois de mars Et là, j'ai été confrontée à ce gros problème, un manque d'eau. Il n'y avait pas d'eau, donc c'était le problème de pouvoir me laver, c'est envoyer des personnes dans le puits qu'on a creusé, là, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau, et les enfants, donc toujours les premiers touchés, hein, voilà. Et puis, le rural m'a toujours parlé, parce que je vois que la vie est dans la ruralité, voilà. Et puis, les cultivateurs sont les premiers témoins de la terre, à dire « protégez la terre, faites attention ». Et là-bas, quand j'étais là-bas, il y avait des agriculteurs qui venaient me voir. Quand ils venaient, ils amenaient quelques fruits, quelques légumes et de leur jardin, de leur champ, malgré les difficultés. Et cela, j'appréciais beaucoup d'échanger avec eux. Ils me disaient que le climat change. Voilà, ils n'ont plus d'eau.
Alors voilà, chère Marie, on arrive à la fin de l'émission. Donc, cette belle association L'Oiseau Bleu de Nzérékoré, construire un centre d'accueil pour les enfants de la Guinée forestière. Marie vous a donné les coordonnées. Si vous avez envie de lui donner un petit coup de main, puisque je crois qu'il lui manque encore 7 ou 8 000 euros pour le carrelage, pour faire l'intérieur de ce centre d'accueil, n'hésitez pas à la contacter aux références qu'elle vous a données.
Oui.
Et puis, écoutez, Marie, merci pour votre accueil, en tout cas.
Merci
aussi pour la lumière que vous dégagez quand vous vous rencontrez. Et puis, je vous dis à très bientôt, en souhaitant surtout que ce centre trouve très vite la lumière, lui aussi. Au revoir.
Merci.
Merci à Benoît Guillard pour ces chroniques vertes qui nous permettent de découvrir de beaux visages dans notre région. On se retrouve dans quelques instants avec le frère Martin de l'abbaye de Tournaille pour son coup de cœur en librairie. Juste après les frangines, pourquoi pas.
Que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi, que c'était toi.
Pourquoi je me suis noyé dans le bleu de tes yeux?
Pourquoi je suis bien nulle part qu'avec toi dans ton vieux? Dans tes draps, c'est Venise, ce soir c'est le grand bal.
Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi. Le hasard par surprise m'a dit que c'était toi. Pas besoin de savoir
ça, ni pourquoi ni comment on s'est rentré dans la toute première fois.
Tout est pas
ça, mais la vie nous surprend, la vie nous a.
à suivre l'élan du vent. Pas besoin de savoir
ça, ni pourquoi ni comment on s'est rentré dans la toute première fois. Tout est pas
ça, la vie nous surprend, la vie nous apprend
à suivre l'élan du vent.
Le chanteur Zaz sur Présence.
Présence à Gourdon, 104.8.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour chers auditeurs.
C'est reparti pour les chroniques littéraires cet été. Hein. Vous ne nous abandonnez pas, vous abandonnez pas les auditeurs de Radio Présence qui cherchent de bonnes idées de lecture pour passer cet été. Et on va commencer cette semaine avec les chroniques de Bridgerton de Julia Quinn. C'est le tome 1 que vous allez nous présenter, mais il y a déjà 8 tomes qui sont sortis. C'est un livre qui est parfait pour le mois de juillet, me disiez-vous en préparant l'émission. Pourquoi ?
Oui, c'est un livre facile à lire, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès et qui donc m'a interrogé, puisque c'est un grand succès de librairie. Je me suis dit, il y a eu aussi une série sur Netflix et sur Internet, et donc je me suis dit, voilà, ça vaut le coup d'aller voir. Et en lisant, certes, il y a une histoire qui est un roman léger, sympathique et tout, mais à travers l'histoire, il y a des choses très profondes qui peuvent nous éclairer sur comment une personne bouge, une situation difficile qui est dépassée, et c'est ça que je trouve très pertinent. Une lecture facile, mais qui peut avoir une lecture beaucoup plus profonde.
Il y a une histoire de mondanité derrière. Enfin, c'est peut-être nous raconter un petit peu l'histoire de l'héroïne, hein, une lady qui a une vie assez mondaine.
Oui,
si on peut dire ça comme ça.
C'est un peu un mystère. C'est une dame qui en fait des chroniques qu'elle distribue à tout Londres au moment de ce qu'on appelle la saison après Pâques, où il y a beaucoup de bals, de rencontres dans la société de Londres. Et donc c'est une chronique qu'elle distribue, mais on ne sait pas qui se cache sous cette personne. C'est ça qui est amusant. Et donc au début c'est gratuit, puis ensuite les gens sont tellement avares de connaître l'histoire qu'ils paient, et que donc sa chronique se développe comme ça dans le temps. Et dans ce premier tome, elle raconte surtout l'intrigue donc de Simon, qui va devenir duc de Hastings, et de la Daphné, la quatrième fille des Bridgerton, auquel tourne cette saga autour d'une famille où ils sont 8 enfants et la maman est veuve, son mari est décédé.
Alors pour autant, c'est pas une série de cancans. On n'est pas dans une héroïne qui s'amuse à raconter des cancans. Il y a autre chose, il y a des histoires de rencontres derrière.
Oui, voilà. Alors là, les personnages qu'on nous présente, donc c'est surtout ce fameux donc Simon qui va devenir duc de Hastings et qui a eu une enfance difficile parce qu'en fait, il s'est révélé qu'il était handicapé, qu'il pouvait pas parler. Et donc, c'est en fait les gens dans son château qui l'ont pris en charge et qui l'ont éduqué. Et petit à petit, il va retrouver la voie. Mais comme son père estime qu'il n'est pas à la hauteur, il est vraiment complètement ignoré de son père. Et même à un moment, on nous dit dans le roman que son père faisait comme s'il était mort, quoi. Et donc, cet enfant qui réussit à parler, mais fait son chemin tout seul, avec la douleur que peut représenter d'être lâché par son père. Il réussit à faire, évidemment, les meilleures écoles auxquelles il peut avoir droit, et il fait son chemin. Il vit sa vie, donc c'est plutôt un libertaire, entre guillemets, dans le livre. Et comme il est libre, justement, et pas attaché à son titre, il voyage beaucoup. Et c'est le moment où il revient à Londres, et pour la saison, et il est ami avec les Bridgerton, avec qui il a été avec l'université, et pour ne pas être tout seul et pour pas être casé, du coup, il se lie d'amitié et il fait semblant avec Daphné d'avoir une relation, et finalement, ce semblant va devenir une liaison amoureuse.
Qu'est-ce qui vous a plu dans cette manière de raconter ? D'abord, peut-être, est-ce que vous pouvez nous dire ce que l'auteur, qui est une auteure américaine, je crois, a voulu nous transmettre à travers cette histoire-là ?
Ben, je crois qu'elle montre comment quelqu'un qui est dans une situation de difficulté, fermé, rejeté, finalement, à la fois se révolte, il prend sa vie en main, il va vraiment faire autre chose, visiter le monde et vivre sa vie. Et puis, il est rattrapé par quelqu'un d'autre, qui, avec ses amis, qui finalement lui permettent de réenclencher une vie, entre guillemets, plus normale et dans les clous, quoi.
Donc la leçon de vie, c'est que finalement, pour s'en sortir, on a besoin des autres.
on a besoin des autres et que toute difficulté, même si c'est pas tout de suite, eh bien, il y a un moment où on arrive à la dépasser et à changer complètement, quoi.
C'est un roman facile à lire?
Oh, très facile à lire, oui. Le style est très fluide. Il y a, enfin, et comme il y a des chapitres, c'est des chroniques, là, la dame raconte les événements de telle ou telle soirée. C'est vraiment vivant, quoi.
Voilà, on est ça. Embarqué dans, le,
oui,
dans, la, dans l'aventure, quoi.
Oui, et puis, il y a des péripéties. Enfin, voilà, c'est très intéressant.
C'est pour quel public?
Vraiment pour tout public, facile à lire, et puis un livre de poche, facile à emporter.
Alors ça, c'est l'édition, là, avec dans un livre, il y a les deux premières éditions, en fait.
Voilà, il y a deux tomes, oui. Il y a la saison 1 et la saison 2. Donc voilà. Vous pourrez aussi lire la saison 2 avec le tome 1.
C'est paru aux éditions J'ai lu, donc format poche, et le prix du livre, un petit peu moins de 20 €, hein, je crois.
Oui, mais c'est 16,90, voilà.
16,90.
Et vous avez deux livres de poche, en fait.
Livres de poche dans un, et on rappelle qu'il y a 8 tomes qui sont sortis, donc de ce roman de Julia Quinn, Chronique de Bridgerton. Voilà, merci Frère Martin pour cette première idée lecture qui peut embarquer les auditeurs pour tout l'été déjà, mais on vous retrouve dans 15 jours avec une idée tout à fait différente. Nous parlerons la prochaine fois du Père Jacques Hamel. Merci beaucoup Frère Martin.
Merci à vous, bonne journée.
Michel Berger sur Radio Présence à 12h30 très exactement. Nous sommes en plein cœur du Présence Midi, nous sommes ensemble jusqu'à 13h donc avec dans quelques instants les informations, la chronique solidaire de Indélois qui nous fera découvrir aujourd'hui Sabine Barbecombe qui est responsable de la pastorale de la santé du diocèse de Tarbes-et-Lourdes et puis Catherine Albrecht qui nous parlera des écrivains dans les Pyrénées. Aujourd'hui, elle nous parlera de Antonin Artaud. Voilà le programme de la demi-heure à suivre sur Radio Présence. Voici tout d'abord le journal de la mi-journée.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, la Haute-Garonne est placée en vigilance rouge pour le risque de feux de forêt. Plusieurs autres départements d'Occitanie sont en vigilance orange. Avec les fortes chaleurs, la sécheresse et le vent, les autorités appellent à la plus grande prudence. Les travaux à risque, les feux et les barbecues en pleine nature sont fortement déconseillés. En Haute-Garonne, toujours, le tribunal administratif de Toulouse estime qu'il n'y a pas d'urgence à évacuer le squat du quartier Guillaumet. La justice rejette ainsi la demande de la préfecture qui souhaitait une expulsion rapide. Plusieurs dizaines de personnes vivent actuellement sur ce site. Dans le Tarn-et-Garonne, le ministre de l'Éducation nationale s'est déplacé à Montauban pour présenter la future carte scolaire nouvelle génération. L'objectif est de mieux adapter les moyens aux besoins des territoires, notamment dans les zones rurales confrontées à la baisse du nombre d'élèves. Une concertation avec les élus doit désormais se poursuivre. En Ariège, la nouvelle loi montagne récemment adoptée par le Parlement peine à convaincre les acteurs des Pyrénées. Si le texte prévoit plusieurs mesures pour soutenir les territoires de montagne, certains élus et professionnels estiment qu'il manque encore des réponses concrètes face aux difficultés du terrain. Airbus poursuit ses essais long courrier. Un avion a décollé de Toulouse pour rejoindre Melbourne en Australie dans le cadre d'un vol d'essais de très longue distance. Ces tests permettent de vérifier les performances de l'appareil avant sa livraison à une compagnie aérienne. Enfin, si vous cherchez une sortie, direction Mirepoix en Ariège, le festival Castel Artes débute aujourd'hui et se poursuit jusqu'au 31 juillet. Pendant une semaine, la cité médiévale accueille concerts, spectacles de danse et représentations artistiques avec plusieurs artistes.
Nathalie Cole sur Présence.
Présence, présence. Les vacances, un temps sacré pour réécouter le meilleur de notre programme.
Et le meilleur de notre programme, c'est avec la chronique solidaire de Anne Deslois.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Solidairement Vôtre, l'émission, comme vous le savez, qui donne la parole aux acteurs du pôle diaconie du diocèse de Tarbes-Lourdes. Aujourd'hui, nous recevons Sabine Barbecombe, responsable diocésaine de la pastorale de la santé. Bonjour Sabine.
Bonjour Anne.
Alors Sabine, nous allons revenir avec vous sur la session provinciale qui s'est tenue à Lourdes les 12 et 13 mars dernier. Alors c'est un thème assez fort puisque c'est le thème « Rejoindre et accompagner ceux qui souffrent ». Pourquoi avoir déjà organisé cette session régionale ? À qui s'adressait-elle ?
Alors, cette session régionale a lieu tous les ans, avec un thème qui varie tous les ans. Et nous suivons les propositions ou les demandes des personnes qui participent aux sessions. Donc, à la fin de chaque session, nous faisons un questionnaire, nous demandons aux participants ce qu'ils aimeraient voir aborder comme thème et nous en tenons compte pour le thème de l'année suivante.
Alors, les participants, ce sont des personnes engagées dans les différents services de la pastorale de la santé sur l'ensemble de la province ?
C'est exactement ça. La session est préparée et proposée par les responsables diocésains de tous les diocèses de la province, les responsables diocésains de la pastorale de la santé. Et les personnes invitées et participantes sont des aumôniers, des bénévoles des équipes d'aumônerie, des bénévoles du service évangélique des malades, des personnes de toutes les associations et mouvements, des personnes porteuses de handicap, des hospitaliers, enfin tous ceux qui veulent participer. Et même, on a aussi certains participants des diocèses alentours. On a en particulier quelqu'un qui vient d'Agen, on a des Lozériens aussi.
Voilà. Donc ils vont profiter aussi du contenu.
Exactement.
Des échanges. Alors ça représente à peu près combien de personnes ?
On est aux alentours de un peu plus de 200-210
ah oui,
personnes.
Même.
On est limité par la place au niveau de l'accueil Notre-Dame à la salle du transit.
D'accord.
C'est ça qui nous limite.
200 personnes.
Ouais.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des temps forts de cette session ? Deux journées au sein du sanctuaire, c'est pas banal.
Alors, bien sûr, il y a les temps forts spirituels et religieux avec des messes. Puis, il y a toujours des interventions ou de professionnels et une partie plus ecclésiale, plus théologique avec un participant. Là, c'était le frère Touton, qui est donc un frère dominicain, pour le côté plus religieux et théologique. Et puis, depuis quelques années, nous favorisons aussi les témoignages. Il y a toujours une partie d'échange entre les participants, les 200 personnes, les 200-210 personnes qui pour avoir un échange, une meilleure connaissance de soi, des autres aussi, parce que le temps fort, l'importance de cette session, c'est aussi que les gens des différents diocèses apprennent à se connaître, voir qu'ils ne sont pas seuls. Il y a des diocèses qui viennent peu nombreux, d'autres qui sont beaucoup représentés. Et donc, c'est intéressant de voir ce qui se fait ailleurs et de pouvoir échanger avec des personnes d'autres diocèses.
Oui, parce qu'on imagine que ça aide vraiment chacun à vivre sa mission dans le quotidien.
Exactement.
D'avoir des lieux de parole.
Tout à fait. Et en plus, l'avantage que ce soit à Lourdes, même si c'est aussi pour une question de logistique, c'est que les personnes qui viennent des autres diocèses en profitent pour se ressourcer aussi en allant à Lourdes, en allant à la grotte.
Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous revient à la mémoire dans les interventions qui ont eu lieu ou dans les témoignages donnés, des paroles fortes que vous pourriez nous partager ?
Alors, il y a eu un témoignage d'une bénévole en aumônerie, veuve, hein, et qui donc a témoigné de sa souffrance, à la fois de la souffrance de son mari qu'elle a accompagné quand il était malade et de sa souffrance aussi personnelle en tant qu'aidant en tant que conjointe, de le voir décliner, de le voir souffrir. Et voilà, ça c'est vraiment un témoignage qui a beaucoup percuté. Hein, on a eu des retours qui nous ont dit que ça avait vraiment été fort. Après, l'intervention du frère Touton aussi a été beaucoup appréciée. Donc avec une parole forte où on dit souvent les personnes qui souffrent, hein, qui sont malades, disent souvent « Je confie mes souffrances à Dieu ». On l'entend souvent. Hein, et il nous a dit « Non, Dieu, il guérit les malades, donc Dieu, il ne veut pas, Jésus, il ne veut pas la maladie. » Et il ne faut pas confier quelque chose de douloureux, de difficile, de négatif à Dieu, mais au contraire, aller lui confier, nous, ce que nous sommes, nous, notre personne, hein, voilà, c'est ça que l'on peut confier et pas nos souffrances à proprement parler.
Alors justement, donc le thème rejoindre et accompagner ceux qui souffrent. Aujourd'hui, comment la pastorale de la santé, comment la mission, votre mission Sabine, mais aussi celle de vos différents bénévoles, concrètement, comment vous arrivez à rejoindre une personne qui souffre aujourd'hui? Est-ce que, je me dis, c'est certainement un grand rôle d'écoute, une présence. Comment dans votre mission presque au quotidien, vous avez cette présence de Dieu auprès d'elle?
Alors, nous ne sommes pas des soignants.
Oui.
Même si beaucoup de bénévoles ou même des aumôniers ont, avant de s'engager dans cette mission, une vie, ont été soignants dans une vie professionnelle antérieure. Mais nous sommes là, nous sommes dans l'être. Nous ne faisons pas. Nous sommes là, nous écoutons, nous sommes présents, nous sommes en silence, souvent, pour permettre à l'autre de parler ou pas. Nous respectons ce silence. Nous tenons une main. Et c'est comme ça que nous sommes présents et que nous sommes attentifs à la souffrance de l'autre.
On sent à travers ce que vous dites un grand respect de la personne souffrante, une gratuité dans votre présence, de toute donnée. Alors, on va revenir un tout petit peu sur cette session en se disant, mais quelle suite vous allez donner à cette session? Alors, on comprend bien qu'il y en aura une deuxième, enfin une autre l'année suivante, mais tout au cours de cette année, comment vous continuez à nourrir les différents bénévoles, les différentes personnes qui ont participé, pour justement toujours porter les fruits de cette session?
Alors, ça dépend, chaque diocèse agit différemment. Bien sûr, il y aura une session l'année prochaine, puisqu'il y en a une tous les ans. Nous nous retrouvons, les responsables diocésains de la province, nous nous retrouvons en juin. Et c'est en juin que nous élaborons, que nous réfléchirons au thème de l'année prochaine, qui sera peut-être complètement différent. Par contre, au niveau du diocèse, par rapport à la souffrance, il y a eu cette matinée à l'origine, à la demande de Monseigneur Mika sur les lois fin de vie. Et pour accompagner vraiment les bénévoles et tous les acteurs de la pastorale de la santé, une récollection aura lieu après les vacances d'été. Alors, on pensait en septembre, mais vraisemblablement, comme on attend de savoir, enfin, la date de venue du pape éventuellement à Lourdes, je vais attendre d'avoir cette date-là pour fixer une date. Voilà, pour permettre aux gens aussi, à toutes les personnes, à tous les intervenants de se ressourcer, parce que c'est ça aussi qui a été évoqué dans cette session à Lourdes, c'est que pour pouvoir bien accompagner les autres, il faut aussi prendre soin de soi, hein. Aimer l'autre comme soi-même, hein, Jésus le dit. Si on veut aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et s'aimer soi-même, c'est prendre soin de soi, se ressourcer, se reposer de différentes façons, chacun de façon différente, parce qu'on est tous différents. Mais voilà, donc les récollections sont un temps de ressourcement important.
Alors, un petit mot pour avant de conclure, Sabine, puisque vous avez évoqué les lois sur la fin de vie. Vous avez organisé aussi, fin mars, à la Maison Saint-Paul, une journée avec des soignants, théologiens, juristes, autour de cette question essentielle de la fin de la vie. Qu'est-ce que vous voulez nous partager?
Alors déjà, c'était à la demande de Monseigneur Mika, qui voulait que tous les chrétiens du diocèse puissent avoir des informations pour argumenter, pour nourrir leurs réflexions par rapport à ces lois. Et donc, avec Christophe Manceau, qui est le coordinateur de la diaconie, nous avons pensé à des soignants du service de l'équipe mobile de soins palliatifs de l'hôpital, pour le côté soignant. Nous voulions aussi la présence d'un juriste. Et donc, nous avons fait intervenir Madame Elisabeth Gadoulet, qui est la présidente honoraire de la Chambre correctionnelle de Tarbes. Et en théologien, nous avons demandé au père Turc de nous donner sa vision, la vision de l'Église par rapport à ces lois.
Je crois, Sabine, qu'on aura l'occasion de reparler de tout ça en profondeur. Hein, c'est un sujet tellement fort humainement et spirituellement. Alors, merci beaucoup, Sabine, pour cet éclairage, pour votre témoignage également, tout en humanité, sur un sujet, comme je disais, qui nous concerne tous, de près ou de loin. Merci, Sabine, à la prochaine fois.
Merci à vous, Anne.
Programme.
L'Occitanie, un doux nom qui a inspiré nombre d'écrivains célèbres depuis des siècles. Séduit par ses paysages, son art de vivre, son histoire, ses habitants, écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Antonin Artaud. Antonin Artaud est un écrivain, poète et dessinateur, acteur de théâtre et de cinéma. Sujet dès son jeune âge à des maux de tête chroniques dont il gardera toute sa vie des séquelles nerveuses, il arrive en 1920 dans le Paris des années folles, en plein bouillonnement culturel. Passionné par le théâtre, pour lequel il interprète de nombreux rôles et en devient un théoricien, et la poésie, reflet des vertiges intérieurs qui le troublent, il ne connaîtra pourtant jamais le succès ni la notoriété de son vivant. Lors d'un voyage en Irlande en 1937, il est arrêté pour trouble à l'ordre public et remis aux autorités françaises qui l'internent au Havre. Le certificat établi par le médecin indique entre autres toxicomanie depuis 5 ans, héroïne, cocaïne, laudanum. Prétention littéraire peut être justifiée dans la limite où le délire peut servir d'inspiration à maintenir. C'est le début d'un long tunnel d'internement, 9 années, dont il ne verra l'issue qu'en mai 1946. Jusqu'en 1943, il végète dans différents hôpitaux psychiatriques, souffrant de conditions matérielles très difficiles, dénuement, faim, manque de soins, aggravé par l'occupation à partir de 1940. Sa mère et le poète Robert Desnos parviennent à le faire transférer à l'hôpital psychiatrique de Rodez, dirigé par le docteur Ferdière, que connaissait Desnos. Il y arrive en février 1943, très amaigri, affaibli, et en repartira ragaillardi en mai 1946. C'est à Rodez qu'Artaud se remet vraiment à écrire. C'est ici que la lettre redevient œuvre d'écrivain. Durant son séjour, il en écrit plusieurs centaines. Certaines adressées à son médecin, le docteur Ferdière, qu'il voit pourtant tous les matins, sont autant de témoignages de gratitude à son égard. Rodez, 5 février 1944. Très cher ami, je suis très heureux que mes dessins vous aient plu, parce qu'il y avait plus de 20 ans que je n'avais pas dessiné et je ne m'étais jamais essayé dans le dessin d'imagination. Et il y a à peine 15 ou 12 jours, je ne me croyais pas capable d'exprimer mes idées par ce moyen-là. Et c'est à l'instigation pressante de F. de Langlade, qui est un véritable et très profond ami, que je me suis essayé. Je vous ferai une gouache, puisque vous aimez ce moyen d'expression. Si j'ai gardé un instant le silence quand vous m'en avez parlé, ce n'est pas du tout parce que je ne voulais pas vous donner satisfaction, au contraire. C'est que, n'ayant pas touché un pinceau depuis des années, je me suis demandé simplement si je pourrais arriver à réussir quelque chose qui nous séduise assez. Mais je vous l'ai dit et écrit plusieurs fois, je sais qu'avec de la volonté, on arrive à tout. Et je ferai cet effort pour vous, puisque vous croyez en moi. À force de claustration, de solitude, d'isolement, j'avais fini par m'engourdir et je ne me lasserai jamais de vous redire le bien inouï que vous et M. de Langlade m'avez fait en me manifestant votre foi et votre amour pour mes écrits et mes travaux. Vous ne m'avez pas seulement aidé à vivre, vous m'avez invité à vivre alors que je m'étiolais. Il faut en effet aller, venir, sortir, voir des gens et des choses. Il n'est pas bon de demeurer perpétuellement en face de soi, dans le mental, ainsi que je le faisais depuis 6 ans, parce que je n'avais plus d'amis autour de moi. C'est une idée excellente qu'a eue M. de Langlade de me faire sortir 2 fois avec lui dans Rodez. Au point où j'en suis maintenant, ce qui me fera le plus de bien, c'est de reprendre contact avec les choses que l'internement m'avait fait oublier. À force d'être enfermé, on finit par s'imaginer que le monde extérieur n'existe pas. Et la conscience s'en ressent. Elle finit par perdre le sens du concret, de l'objectif, et par conséquent du vrai. Et elle est menacée de s'attarder inconsidérément sur de fausses images, de fausses impressions. Et d'y croire avec le temps. car les fausses croyances ne sont en nous que l'agrandissement démesuré et la déformation de sentiments et de perceptions justes qui ont pris une valeur disproportionnée parce que la conscience s'y est abusivement attardée. C'est l'internement et les mauvais traitements que j'ai subis au début qui m'avaient mis dans cet état de bête traquée dans lequel je me trouvais quand je suis arrivée ici. Et l'idée de mon retour à la vie sera toujours liée avec celle du bien que vous m'avez fait. Antonin Artaud, lettre au docteur Ferdière. À travers le regard et les mots d'Antonin Artaud, inspirés par notre belle Occitanie, nous avons pu apprécier son talent et son émerveillement devant ce beau patrimoine. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles d'Occitanie » inspirant tous mes récits.
Présence à Gourdon 104.8.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
L'Église de France se souvient, il y a 10 ans, le père Jacques Hamel était victime d'un attentat.